Vous avez entendu l'histoire de...
Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz.
Comment ils vécurent, comment ils sont morts?
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien, écoutez Stop Chorus et...
On vous en racontera bien plus.
Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans Stop Chorus. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli.
Eh bien, bonjour, bah oui, Django Reinhardt, notre grand guitariste français, considéré comme un génie, et Stéphane Grappelli, donc, un des plus grands violonistes de jazz. Qui est eu sur cette petite planète qui tourne en rond, là. Eh bien, c'est deux très grands messieurs et c'est un vrai plaisir de raconter leur histoire.
Voilà, donc on va tout d'abord vous présenter les deux hommes. Django Reinhardt, né Jean Reinhardt, donc guitariste de jazz français. Lui, il est né dans une roulotte le 23 janvier 1910 à Liberchy en Belgique. Et il est décédé le 16 mai 1953 à Saint-Mois-sur-Seine. Alors son style de jeu et de composition a donné naissance à un style de jazz à part entière qu'on appelle le jazz manouche. Alors Django Reinhardt est encore aujourd'hui un des guitaristes les plus respectés et influents de l'histoire du jazz.
Tout à fait. Il a énormément influencé les guitaristes américains qui lui-même avait été influencé par un autre guitariste qui s'appelait Eddie Lang et qui jouait avec un violoniste qui s'appelait Jovinuti. Donc lui, il a fait appel à Stéphane Grappelli pour lui donner la main. Et en fait, ils ont amélioré le style d'Eddie Lang et Jovinuti pour faire quelque chose de vraiment pas unique au monde, quoi. C'est vraiment parfait.
Pour une fois qu'on pointe dans le jazz.
Oui.
Et alors, quant à Stéphane Grappelli, lui, il est né le 26 janvier 1908 à Paris et il est décédé le 1er décembre 1997 à Paris aussi. Donc, il est violoniste, pianiste et jazz man, donc italo-français. Il fait partie des plus grands violonistes de jazz du XXe siècle.
Tout à fait. Un garçon formidable.
Donc on va vous proposer une première composition du Hot Club de France enregistré en 1937 qui s'appelle Minor Swing. Thank you.
Eh bien, magnifique, hein, le swing dans toute sa splendeur. Là, il est boost, hein, Django, là, il booste Stéphane Grappelli et tout. Oh là là, et puis il y va. Et, hein, c'est magnifique, quoi, c'est magnifique. C'est vraiment des sacrés personnes. Hein, disons.
Alors, Django, lui, il apprend la musique avec le banjo-guitare de son oncle, en fait. Vous savez, alors les banjos, un banjo-guitare, c'est un banjo à 6 cordes, mais parce que normalement, les banjos sont à 4 cordes, ou 5 cordes, pour les banjos américains.
Oui, accordés différemment, mais...
Voilà. Et donc, il va donc très vite faire son apprentissage, en observant aussi beaucoup les musiciens de passage au campement, et il va acquérir très vite une dextérité hors du commun. Après, il va se mettre aussi au violon, puis finalement à la guitare. Il va débuter dans l'orchestre familial que son père, qui est musicien aussi, il joue du piano, lui, et du cymbalum, dirige. Et donc, vers déjà l'âge de 12-13 ans, il va jouer dans les cours d'immeubles, puis dans les rues, dans les cabarets, les bals, ainsi que dans les demeures des gens aisés, tout en continuant de jouer, surtout pour son propre plaisir. Pardon. Il va être repéré rapidement par l'accordéoniste de bal Vétès Guérino, qui le convainc de l'accompagner. Et donc, la réputation du genre virtuose va se répandre rapidement chez les amateurs de musique. Et en 1928, en fait, l'accordéoniste Jean Vessat va permettre à Django d'enregistrer son premier disque. Mais l'adolescent, ne sachant ni lire ni écrire, pas même son propre nom, les étiquettes portent la mention Django Renard Banjoist. Alors, quant à Stéphane Grappelli, ben lui, vers 12 ans également, il commence à jouer du violon dans les rues et les cours d'immeubles pour rapporter un peu d'argent à la maison. Il va débuter dans la carrière professionnelle en 1923 comme violoniste et pianiste dans les cinémas pour accompagner les films muets.
Eh oui, ça se passait comme ça à l'époque.
Donc, eh bien, maintenant, on vous propose d'écouter Tierce, donc un autre grand morceau.
Oui, composé par Django et Stéphane Grappelli. Hein. C'est très beau. Oh là là. Thank you. Eh bien, c'est parfait. Ce morceau a été repris par Françoise Hardy, qui avait dû écrire des paroles dessus. Je pense que, de la part de Françoise Hardy, ça devait être sympa, quoi. Ça devait être de belles paroles.
Alors, donc, lui,
oui, elle l'interprétait avec son fils à la guitare, Thomas Dutronc.
Qui a fait un peu de manouche aussi.
Voilà.
Alors, en 1928, en fait, le chef d'orchestre Jack Hilton, impressionné par la virtuosité de Django, lui propose de l'engager dans sa formation pour se produire à Londres. Mais le destin va contrecarrer ce projet, car juste avant le départ du groupe, le 26 octobre 1928, à Saint-Ouen, un incendie se déclare dans la roulotte de Django, où il vit avec sa femme. Et donc, les fleurs en celluloïde, donc, qui est une matière quand même très inflammable, que celle-ci vend, va s'enflammer au contact d'une bougie qui s'est renversée et va détruire la caravane et blesser assez gravement ses deux occupants. Alors, Django est quand même sérieusement atteint à la jambe droite et à la main gauche. Alors, celle-ci cicatrisant très difficilement, il va rester quand même 18 mois à l'hôpital, où les médecins pronostiquent des séquelles qui l'empêcheront de rejouer du bon jeu. Alors, bon, finalement, ça va cicatriser, mais il va perdre l'usage de deux doigts et sa main va rester paralysée. Mais il s'obstine néanmoins, après 6 mois de travail sans relâche, et va développer une technique nouvelle sur la guitare que son frère Joseph, dit Nana, lui apporte en guise d'outil de rééducation. Parce que le banjo, c'était un peu trop sonore pour continuer à jouer dans l'hôpital. Donc la guitare étant plus discret, c'était moins gênant pour ses voisins. Donc à sa sortie de l'hôpital en 1930, Django a donc développé une toute nouvelle technique guitaristique, hein, d'autant plus exceptionnelle qu'elle n'emploie que deux doigts de la main gauche, l'index et le majeur, pour les solos. Et puis pour la rythmique, il parvient quand même à plaquer des accords en utilisant son pouce et en contorsionnant son annulaire et son auriculaire en kilos. Il découvre qu'entre-temps, la guitare a gagné sa place au sein des orchestres de jazz, cette nouvelle musique venue des États-Unis. Et donc, les premiers contacts de Django avec la musique de Duke Ellington, Joe Venuti, Eddie Lang ou Louis Armstrong sont un grand choc pour lui. Et le jeune guitariste décide de consacrer son existence à la pratique du jazz.
Eh ben, parfait, parfait. Il n'y a rien à redire.
Donc là, je vous propose un morceau donc qui s'appelle « I will see you in my dreams ». Et donc là, il y a Sam Grappelli au violon.
Oui, et beaucoup de musiciens de jazz manouche considèrent que c'est le plus beau chorus de la vie de Django Reinhardt.
Alors,
donc,
écoutez
bien.
Religieusement.
Écoutez bien. C'est magnifique. Magnifiquement construit. Thank you. Eh ben, le génie à l'état pur. Hein. Trois chorus, pas une note de trop. Elles ont toutes de la valeur. Elles veulent toutes dire quelque chose. C'est merveilleux. Il s'en part. Il part au ciel là, quand, dès qu'il attaque ce chorus. C'est merveilleux.
Alors, parallèlement, Stéphane travaillera durant les années 20 et les années 30 avec tous les musiciens du moment et fréquentera de nombreux orchestres, plus souvent au piano d'ailleurs qu'au violon. Il sera notamment très présent d'abord comme pianiste, ensuite comme violoniste dans l'orchestre de Grigor Kelekian, dit Grégor, dont la formation, connue sous le nom de Grégor et ses Grégoriens, fait partie des meilleurs orchestres du moment. La rencontre de Stéphane Grappelli et de Django a lieu en 1931, alors qu'ils jouent tous les deux dans l'orchestre du club La Croix du Sud, dirigé par André Équian, aux côtés d'Alex Combel et de Stéphane Mougin. En 1934, le célèbre contrebassiste Louis Vola va créer le quintet du Hot Club de France, avec, entre autres, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. Alors, le groupe comprend également le frère de Django, Joseph, donc alias Nanin, dont on a parlé tout à l'heure, ainsi que Roger Chaput à la guitare, et donc lui voilà la contrebasse. Les cinq musiciens vont inventer une musique innovante qui remporte un grand succès. Le quintet aura toujours une existence intermittente, malgré plusieurs tournées et de très nombreux enregistrements. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas fonctionner tout le temps, ils se retrouvent régulièrement à certains moments, voilà, pour faire des concerts, des enregistrements, etc. Mais entre ça, ils vont jouer dans d'autres orchestres. Donc là, je vous propose un enregistrement justement du quintet du Hot Club, à Paris, un enregistrement fait à Paris le 15 octobre 1936 et qui s'appelle In the Still of the Night.
Thank you.
quel beau climat, hein. Puis, pareil, toujours très belle note. Rien à redire. Sauf que c'est beau, quoi.
Bah, c'est beau, c'est beau. Alors, donc ça, c'est un enregistrement de 1936. Mais en 1935, Django lui va engager un jeune accompagnateur nommé Henri Salvador, dont le jeu aux parfums tropicaux lui plaît. Ils vont jouer ensemble, en fait, pendant 2 ans. Mais après, bon, il va jouer avec plein d'autres musiciens, hein, et notamment dans ces époques-là, il va jouer aussi avec des musiciens tels que Coleman Hawkins, Benny Carter ou encore Rex Stewart. Et là, bah, je vous propose d'écouter un autre morceau qui s'appelle Bugle Call Rang, où là, on va retrouver Dickie Wells, Bill Coleman, Bill Dillard, Lester Coleman, Richard Fulbright et Bill Bison. Donc, c'est un enregistrement à Paris, donc le 7 juillet 1937.
Eh bien, là, c'est la bande de musiciens américains. Ça devait être l'orchestre de Count Basie, là, parce qu'on reconnaît pas quand même pas mal de gens de chez Count Basie. Hein. Dickie Wells, qui était en pleine forme, là, qui fait un superbe chorus de trombone. Ouais, ouais. Donc, bah ouais, tout ça, c'est du beau monde. Et Django, il était à la hauteur. Hein. Il se tenait bien avec tout ce monde-là.
Voilà, mais là, comme vous aurez pu le constater, Grappelli n'était pas là. Alors, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, le quintet, en fait, est en tournée en Angleterre. Donc, Stéphane Grappelli est malade, donc reste bloqué à Londres, et il va donc passer la guerre, toute la guerre en Angleterre, jouant notamment avec le pianiste George Shearing. Il va développer donc sa carrière de manière importante, en peaufinant et affinant sa technique, son style, sa musicalité, et il va beaucoup composer à ce moment-là. Alors, quant à Django, pris de panique, il retourne en France, à Toulon, où il est mobilisable dans la marine nationale française, mais il est réformé à cause de ses brûlures. Il va passer donc la guerre en zone occupée, et on va le retrouver sur la Côte d'Azur dans le programme du jeune Yves Montand, dans la revue Un soir de folie du producteur Émile Audifred. En 1940, il va enregistrer le titre « Nuage » avec le clarinettiste et saxophoniste de jazz Hubert Rostin. Alors, nous allons écouter ici une version de 1953 que Jean trouvait plus belle, voilà, où il est accompagné de Maurice Vander, Pierre Michelot et Jean-Louis Vial. Donc, on va écouter « Nuage ».
Quelle merveilleuse utilisation de la guitare électrique, parce que là, il est passé à la guitare électrique, et quel bonhomme. Oh, aïe, aïe, comment il s'en sert à l'époque, en 53. Hein, les petits Anglais n'étaient pas arrivés avec leur sacré son. Même Monsieur Les Paul n'avait pas sorti sa fameuse guitare, là, qui avait un vibrato incroyable. Et là, il a déjà le vibrato, là. Que vont utiliser les rockers, les joueurs de blues. C'est magnifique. Hein. C'était un... Quel bonhomme. Mon Dieu, quel bonhomme.
Alors, pendant l'occupation, il va donc s'essayer à la formule du soliste accompagné par un big band. En 43, il va épouser Sophie Ziegler, dont il aura l'année suivante un fils, Babi Krenhardt, qui deviendra à son tour un grand guitariste. Mais à la fin de cette même année, ne se sentant plus en sécurité à Paris, en fait, il décide de partir en Suisse. Là, il est arrêté par des gardes frontières suisses et il se voit intimé l'ordre de rentrer à Paris. Donc, il va s'exécuter. Une fois revenu dans la capitale, il va ouvrir un club chez Django Reinhardt et forme un nouveau quintet avec Hubert Rostin à la clarinette et Pierre Fouad aux percussions. Cette formation bénéficie de la vogue du swing et le morceau Nuage va donc devenir un tube. À la Libération, il va retrouver Stéphane Grappelli avec lequel il va improviser une Marseillaise qui restera célèbre. Alors, comme pour celle de Serge Gainsbourg quelques décennies plus tard, cette version va faire scandale à l'époque. Et à ce moment-là, il fait jouer à la chapelle de l'Institut des Jeunes Aveugles de Paris un requiem à mes frères Tziganes, messe en fait qu'il avait composée durant l'occupation et dédiée aux victimes du génocide de Tziganes. Ce fut d'ailleurs la seule fois que cette œuvre magistrale exceptionnelle, car sortant de son répertoire habituel de jazz manouche, fut jouée, car par la suite, la partition a été égarée. Il n'en subsiste aujourd'hui que quelques portées. Alors, il est ensuite l'un des premiers en France à comprendre le bebop, cette révolution du jazz venue des États-Unis, portée par Charlie Parker et Dizzy Gillespie. Il intègre à ses compositions dès la fin de la guerre de nombreuses trouvailles inspirées directement du bebop, tout en restant toujours fidèle à ses propres conceptions musicales.
Oui, parfait, il n'y a rien à dire.
Tu ne veux rien rajouter. Alors, je vous propose d'écouter Mike, donc par le Hot Club, et donc avec Stéphane Grappelli, Joseph Reynard et Emmanuel Soudieu.
Ça y est, l'influence du bebop est là. Les notes, c'est pas, il y a pas les fameuses dissonances, mais la vitesse est là, l'énergie est là. Bah oui, là il faut suivre. Hein. Ça va très très vite.
Hein. Faut pas être manchot.
Quoi. Bah il faut bosser le bignou. Hein. C'est pas...
Alors après la France. Le Hot Club de France va reprendre enregistrement et tournée. En 46, une tournée aux États-Unis donne enfin à Django l'occasion de jouer aux côtés de Duke Ellington. Et les deux musiciens, en fait, s'étaient rencontrés en 39 lors d'une tournée de Duke en Europe. et ils désiraient depuis longtemps jouer ensemble. Mais donc cette association n'est pas celle dont Django avait rêvé. Parce que d'abord, il ne parlait pas anglais. Et puis lui, il était quand même très habitué à sa vie de nomade et à faire un peu ce qu'il voulait. Voilà. Donc, il a quand même peine à s'habituer à la discipline très stricte
des big bands. Chez Ellington, ça ne devait pas rigoler. Alors, américaine. Voilà. Américaine.
Donc, c'est difficile.
Marche ou crève.
Donc, ces difficultés, alliées au fait qu'Ellington n'avait pas réellement intégré le guitariste à ses arrangements, puisqu'il le faisait toujours intervenir en fin de représentation, faisaient de Django une sorte d'attraction et dont le concertiste qu'il espérait être durant cette tournée. Et donc, la déception sera rude pour lui de n'être pas reconnu comme le plus grand, surtout lors du concert avec Duke au Café Society de New York. Hein, je rappelle, le premier cabaret qui pratiquait l'intégration raciale aux États-Unis.
Et je vais dire l'intégration des musiciens français, parce que les Américains sont très protectionnistes. Pour aller jouer en Amérique, faut s'accrocher, quoi. Et lui, Django, il avait eu cet honneur... Exceptionnel hein, pour les Américains de recevoir un Français. Et ce qui, hélas, d'avoir manqué un cacheton, quoi, un gala, quoi. Et il a fait un tort énorme aux musiciens français qui sont tous passés, parce qu'ils attendaient que ça, hein, nous choper. Et là, ils ont chopé, évidemment, le seul qu'ils invitent, il vient pour un concert. Et les musiciens français ont eu et sont peut-être encore considérés comme des gros branleurs, alors c'est pas vrai, quoi, par les Américains. Mais là, il s'est pas rendu compte, mais il a fait énormément de mal aux musiciens français.
Ah oui, je sais. Donc, plus qu'il est parti faire pour un combat de boxe ou non.
Il est parti, il a rencontré Marcel Cerdan, ils sont allés boire un coup, je sais pas, ensemble, et il est pas allé jouer avec Duke Ellington parce que ça le gonflait, et puis c'était pas son truc.
Donc,
et
c'est
puis,
pas des choses à faire. Hein.
Voilà, il a fait du mal. Il s'en est pas rendu compte, hein, c'est pas de sa faute, hein, mais. Mais bon, aïe, 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 là, on peut dire c'est...
Donc là, eh bien, on va l'écouter quand même avec l'orchestre de Duke Ellington. Donc, c'est un enregistrement à Chicago le 10 novembre 1946, et dans un titre, un standard de jazz, un Honey Sokol Rose. Thank you.
toujours parfait. Hein. Oh, vache. Le nombre de chorus est tous merveilleux. Hein. Oh, là, ah, bah, les musiciens américains, ils doivent être quand même surpris. Hein. Ils dire, là, d'où il sort celui-là.
Alors, il gardera quand même de cette expérience américaine une certaine amertume. Hein. Il va s'éloigner peu à peu de la guitare et se consacrera de plus en plus à ses autres passions, donc la peinture, la pêche et le billard. Voilà. Alors, cela ne va pas l'empêcher de recréer à plusieurs occasions hein, sur disque le prestigieux quintet avec Stéphane Grappelli. Et bien sûr, les résultats sont toujours fantastiques de maîtrise et de singularité. Alors, en 51, il va acheter une maison et s'installe à Samoa-sur-Seine. Et puis, il va commencer là un petit peu un renouveau pour lui. Hein. Son jeu est plus inspiré. Il va jouer plus régulièrement avec un orchestre qui est composé des meilleurs bebopers français, comme Roger Guérin, avec qui Jean a joué dans le Big Band. Là, tu jouais du trombone.
Bah, voilà, oui, oui. Et donc, personnage formidable. Formidable.
Avec donc aussi Hubert et Raymond Folle, Pierre Michelot, Bernard Pfeffer et Jean-Louis Vial. Alors, il est toujours à l'avant-garde du jazz. Et donc, en 53, Norman Granz fait part à Django de son désir de l'engager pour les tournées de jazz à The Philharmonic. Et le producteur français, Eddie Barclay, lui fait enregistrer 8 titres en guise de carte de visite pour les amateurs américains. Alors, ces 8 morceaux exceptionnels marqueront irrémédiablement les amateurs de jazz et surtout les guitaristes du monde entier qui s'inspireront des décennies durant du jeu de Django, qui est quand même très en avance sur son époque. Alors là, ce que je vous propose, c'est d'écouter Hanuman, bon, qui n'est pas le morceau préféré de Jean, mais voilà, il y a Roger Guérin dedans, Hubert Folle, Maurice Vander, Pierre Michelot et Pierre Lemarchand.
Que du beau monde, hein, voilà. Elle est vraiment le meilleur musicien français.
Donc ça a été enregistré à Paris le 30 janvier 1953. Thank you.
Eh bien, c'est très beau quand même, hein, avec un des frères Foll, là, au saxo, qui joue merveilleusement bien aussi. Hein. Parce que oui, c'est pas tout jeune, ça. Hein. C'est... Mais puis, quoi, très beau son de guitare électrique.
Donc, Gianco, il va enregistrer son dernier disque le 8 avril 1953 avec Marcia Solal au piano, et dont c'est l'un des premiers enregistrements. Pierre Michelot à la contrebasse, Fats Sadi l'allemand au vibraphone et Pierre Lemarchand à la batterie. Il va mourir un mois plus tard, à 43 ans, d'une hémorragie cérébrale dans sa petite maison de Saint-Mouin-sur-Seine. Et le lendemain, son épouse brûle tous ses effets personnels, selon le vieux rite tzigane qui consiste à effacer toutes les traces du défunt. Et donc Django, depuis, repose dans le cimetière de Saint-Mouin-sur-Seine. Alors, on va revenir un petit peu à Stéphane Grappelli, donc, qui, lui, va enregistrer au cours de sa carrière plus d'une centaine de disques avec les plus grands musiciens de la planète, hein, notamment Oscar Peterson, Jean-Luc Ponty, Philippe Catherine, Michel Petrucciani, le Rosenberg Trio, le chanteur Paul Simon, David Chrisman ou encore Yehudi Menuhin, sans oublier ses collaborations avec les grands noms de la musique du monde. Il a également joué du violon sur le titre Wish You Were Here de Pink Floyd, mais la prise n'a pas été utilisée dans le mixage final pour la sortie de l'album en 75. Toutefois, la version figure en bonus dans la réédition de 2011.
Michel Legrand, hein, tu l'as dit aussi.
Non, j'ai pas dit, non, oui. Mais voilà, mais il y en avait tellement, voilà, je pouvais pas citer tout le monde. Hein. Oui, non. Là, puis il y en a, les noms étaient tellement compliqués que j'ai triché, j'ai pas dit non plus. Voilà. Alors, bon, allez, je vous laisse peut-être reconnaître la prochaine composition. Thank you.
bien sur ce film culte, hein, des valseuses, hein, et bien de un son mais à feu, vraiment fabuleux de violon, quoi. Il y a pas photo, quoi. Le jour où vous me trouverez un violon qui a un si beau son, eh ben j'irai le voir et l'écouter avec plaisir, parce que c'est, oh, quelle magnifique doigté, quelle douceur, quelle beauté. Il y a grand monsieur aussi. Hein. En plus, il était adorable, il était charmant. Je me souviens, c'est Michel Devidier qui l'avait reçu quand il était venu à jouer à Évreux et tout. Il avait dit à Michel, tu sais, tu mettrais une petite bouteille de Johnny Walker, parce que je commence à me faire vieille, tu sais, et tout.
Alors, donc, vous l'aurez compris, Grappelli est aussi un compositeur-interprète de morceaux originaux qui constituent les bandes-sons de films, dont notamment là, Les Falseuses, de Bertrand Blier, qui est sorti en 1974, ainsi par exemple que de la musique de Milou en mai, un film de Louis Malle de 1989. Alors, d'après le générique de Milou en mai, donc, les musiciens rassemblés autour de Stéphane Grappelli sont Marc Fossé, Maurice Vander, Martine Taylor, Jack Sewing, Pierre Gosset et Marcel Azola. Donc, ils vont enregistrer la bande originale du film au studio de la Grande Armée. Et donc là, bah, je vous propose d'écouter ce dernier morceau de Stéphane Grappelli.
Avec Marcel Azola. Enfin, dernier, Azola.
Pour l'émission, hein, c'était pas son dernier morceau qu'il a écrit.
Bah bon, bah le plus grand accordéoniste français, le plus grand violoniste français quand même. Et ils font de belles choses quand même.
Voilà. Oui. Alors, donc Stéphane Grappelli va terminer sa carrière, hein, ancien d'un trio qui va comprendre Marc Fossé à la guitare et Jean-Philippe Viré à la contrebasse. Voilà, il va mourir le 1er décembre 1997, donc à Paris. Alors, il y a de nombreux groupes hein, maintenant qui lui rendent hommage. Donc là, en fond, vous pouvez entendre c'est Philippe Catherine et Larry Coriel. Mais à Évreux, on a aussi un groupe hein, qui rend hommage à Django. Donc, c'est les Swing Gadjo.
Voilà.
Donc, avec Jean de Clinchon, il s'est présent donc à la contrebasse. Il y a donc Philippe Neymar à la guitare et voilà. Pascal Lelion
au guitare et au violon.
Voilà. Et puis, on a bien sûr notre célébrité locale qui est Sacha Lemar.
Oui, qui vole de ses propres ailes.
Voilà, maintenant.
Mais il nous rejoint de temps en temps.
Voilà, hein, il vient faire le buzz.
Ah ouais.
Bon, alors, bah, j'espère que vous aurez apprécié. Voilà cette émission. On vous laisse un petit peu en compagnie de Philippe Catherine. Alors, ce morceau phare de Django.
Djangologie, une de ses plus belles compositions.
L'histoire de
Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz.
Comment ils vécurent, comment ils sont morts.
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien, écoutez Stop Chorus et
on vous en racontera bien plus.